Moi, je ne suis pas très habile pour les trucs techniques de téléphone. Je sais pas pour vous, mais alors, ça m'arrive quand je suis avec les jeunes de notre église de découvrir des nouvelles manipulations, des nouvelles fonctions qui sont très utiles. Avec l'exemple des autres ou en lisant le manuel de propriétaire, ce que je fais rarement. Je ne sais pas pour vous. Vous lisez les manuels de propriétaire, c'est presque la même chose. Mais si je regarde l'exemple des autres, si je lis le manuel de propriétaire, je profite des avantages et des capacités quelqu'un d'autre ne connaît pas leur téléphone aussi. Non, ça va. Quand nous regardons les exemples des autres ou nous lisons le manuel de propriétaire, non, on dit comme ça, oui, du propriétaire.
Manuel d'utilisation.
Ah, mais dans le dictionnaire, ils ont dit propriétaire, je ne sais pas, utilisation.
Oui.
Ah, d'accord.
Ou mode d'emploi.
Ah, d'accord. Bon, en tout cas, je profite des avantages et des capacités de mon téléphone que je ne connaissais pas avant. C'est pareil dans la vie chrétienne. En regardant l'exemple des autres chrétiens mûrs dans leur foi, ou en lisant le manuel d'utilisation qui est la Bible, comme Sylvain nous a dit tout à l'heure, nous pouvons découvrir davantage des bénédictions qui nous appartiennent en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3, Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est pour nous. Nous n'avons à peine effleuré la surface de ce à quoi nous pouvons attendre dans notre vie avec Christ. Il y a beaucoup qui est là pour nous. Une vie merveilleuse nous attend si nous sommes prêts à la saisir. Ce matin, nous allons découvrir encore une autre bénédiction qui nous attend en Christ. La Bible nous enseigne que nous pouvons mener une vie de contentement, une vie où nous sommes satisfaits de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Une vie où nous ne sommes pas pressés, stressés, frustrés, courbés sur les soucis de cette vie. Une vie qui est marquée par une tranquillité d'esprit et une force intérieure pour vivre. Notre texte de ce matin se trouve en Philippiens chapitre 10, 4, versets 10 à 13. Donc nous continuons notre série dans le livre des Philippiens. Et nous devons garder à l'esprit le contexte historique et littéraire lorsque nous lisons ce passage. N'oublions pas que ce que nous lisons en Philippiens est une lettre rédigée par l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison à Rome. Les Philippiens ont envoyé de l'argent pour aider l'apôtre dans ses circonstances difficiles quand il était là dans la prison. C'est une église qui avait une très bonne relation avec l'apôtre Paul. Donc, ils ont envoyé l'argent. Donc, l'une des principales raisons d'écrire cette lettre était de remercier les Philippiens. Et c'est dans le contexte de parler maintenant d'argent et de donner à Dieu que Paul partage un secret important avec cette église. Il leur explique comment mener une vie de contentement spirituel. Donc, je lis le passage ici. L'apôtre Paul dit, J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance, partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. si nous suivons le conseil de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul partage dans ce passage, nous pouvons aussi mener une vie où nous sommes contents de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Une vie marquée par la tranquillité d'esprit et par la force intérieure pour vivre. Prions le Seigneur. Père Céleste, je prie que tu sois avec nous ce matin pendant la prédication de ta parole. Seigneur, d'abord je te demande l'aide pour m'exprimer en français et pour prêcher la parole. Que ton esprit soit avec nous pour comprendre et Seigneur pour aussi mettre en pratique ce que tu nous dis. Seigneur, les choses que peut-être qui ne sont pas importantes, que ces choses tombent à côté, mais les choses importantes qui sont pour nous ce matin, que nous les gardons dans nos cœurs et les mettre en pratique. Merci Seigneur. Je prie en ton nom. Amen. La première leçon que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est le contentement ne dépend pas des circonstances de la vie, mais plutôt de Jésus-Christ. La première chose à remarquer dans ce passage est que cette vie de contentement dont Paul parle peut être vécue dans n'importe quelle situation où on se trouve. Regardez de nouveau notre texte. Et les choses que j'ai soulignées et mettre en rouge. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Dans les Bibles Semeur, la version Semeur, il dit, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Ou dans le MBS, une autre version de la Bible, il dit, parce que cette version, c'est le Louis II 21, pas le 21 Sylvain, mais le 21 second, d'accord? Comme on a lu tout à l'heure. Le MBS dit, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Ça, c'est le verset 11. Verset 12, il dit, je sais vivre dans la pauvreté. D'autres versions disent humiliation, je sais vivre humblement. Et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Notez d'abord les contrastes dans ce passage. Nous voyons la pauvreté versus l'abondance. Nous voyons... être rassasié contre avoir faim. Ou dans l'abondance, en contraste à être dans le besoin. L'apôtre Paul, il parle des pôles opposés de la vie. Pour montrer qu'il n'y a pas de situation dans la vie qui ne soit incluse. Tout est compris. Donc, je ne peux pas être là dans mon... assis là et pour dire que mon cas est différent. Donc il parle des pôles et tout ce qui est entre les deux choses. Notez aussi le résumé qu'il dit ici, au verset 12. Partout, si on ne comprend pas, il dit que partout et en toutes circonstances. Si nous pensons que nos circonstances sont l'exception à ce que Paul dit, ce résumé nous rappelle que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une situation exempte de ce dont Paul parle. Donc, Paul nous enseigne que c'est possible de mener une vie de contentement malgré les circonstances auxquelles nous faisons face. Parfois, quand nous regardons d'autres personnes qui sont plus riches ou plus belles ou plus douées ou qui sont mieux placées dans la société, nous sommes tentés de penser qu'il sera plus facile d'être content si nos circonstances étaient différentes, si nos circonstances étaient comme les circonstances des autres. Mais il n'y a pas une situation que c'est le cas. Paul, il nous dit le contraire. Lui, il était en prison quand il écrivait cette lettre. Les circonstances de sa vie étaient mauvaises, mais il est intéressant de se souvenir que cette lettre aux Philippiens que nous lisons maintenant est connue comme étant la lettre de la joie. Vous lisez dans les commentaires, vous lisez dans tous les théologiens, il le connaît comme la lettre de la joie. Il n'y a pas un chapitre dans cette lettre où le Paul ne parle pas de la joie. Donc malgré tout, Paul a pris le secret pour être content que quel que soit l'état où il se trouvait. Et maintenant, il le partage avec nous. Mais Satan, il ne veut pas que nous soyons contents de notre situation de vie. Il fait tout pour nous rendre mécontents. La première tentation, pensez dans le livre de Genèse, la première tentation de l'homme était une tentation d'être mécontent. Dieu a pourvu pour Adam et Ève tout ce dont ils avaient besoin. Dieu a seulement dit qu'ils ne pouvaient pas manger d'un seul arbre dans le jardin d'Éden. Et tous les autres arbres fruitiers étaient pour eux. Ils peuvent manger de tout, sauf que cet seul arbre. Mais Satan, il a utilisé ce seul arbre pour semer les pensées de mécontentement afin de les pousser à questionner la bonté de Dieu. Être content de notre situation de vie, c'est d'avoir la ferme assurance que Dieu est bon en tout temps. En fait, au cœur de ce que l'apôtre Paul dit à nous, c'est ici. D'avoir confiance dans la bonté et l'amour et la sagesse et la puissance de Dieu. Ça c'est, croyons-nous que Dieu est bon en tout temps. Croyons-nous qu'il ne cherche que ce qui est pour notre bien. Croyons-nous que rien ne peut toucher ma vie sans d'abord passer par ses mains. Il est un Dieu qui est bon tout temps. Mais la première tentation de Satan, c'était de mettre cette question dans nos têtes. Ah, ça ne marche pas dans ma vie, donc Dieu n'est pas bon. Il n'est pas là. Mettre la question, la doute. Satan a utilisé aussi la même stratégie quand il a tenté Jésus dans le désert après son baptême. Il voulait pousser Jésus à être mécontent de ce qu'il avait, provision, possession, et de ce qu'il était, position, pouvoir, etc. Mais Jésus a résisté aux tentations du diable car son regard était sur son Père pour recevoir de lui tout ce dont il avait besoin. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens. Le diable te tentera d'être mécontent dans les domaines différents de ta vie. Il te tentera de ne pas être satisfait de ta personne. Je suppose que vous êtes comme moi, on regarde dans le miroir et dit « Ah, si mon nom n'était pas si long que ça, ou si j'étais plus grand ou moins gros, ou je ne sais pas, si j'avais le muscle, des grands muscles, je ne sais pas, mais Dieu nous a créés tel que nous sommes. On peut être satisfait avec le corps que Dieu nous a donné. » Être satisfait avec nos capacités intellectuelles. Bien sûr, il y a certains qui sont plus intellectuels que nous et d'autres qui sont moins. Mais Dieu nous a créés avec toutes nos capacités intellectuelles, physiques, notre santé. La santé pour certains, c'est mieux que pour l'autre. En psaume 139, 13 et 14, il dit, c'est toi, le psalmiste, il dit, c'est toi qui m'as formé, Seigneur. Et verset 14, il dit, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Chacun de nous sont créés par Dieu. Et nous pouvons être contents de ce qu'il a fait en nous. Avec nos faiblesses, avec nos imperfections. Le diable te tentera de ne pas être content de ce que tu as. Possession. Ah. Ils ont une maison qui est plus belle que la mienne. Oh, regarde cette voiture. Là, ma voiture, je dois... je ne sais pas quoi pour faire pousser. Les vêtements, les logements, les voitures, les téléphones, tout cela, le salaire. Le diable va te tenter de ne pas être content de ta place dans la société ou ta place dans l'église. Pourquoi cette personne était élue pour être dans le comité et pas moi? Et donc on peut avoir l'attitude apitoiement de soi, on dit comme ça. Oui. Donc le diable va te tenter de ne pas être content de plein d'autres choses dans la vie, ta vie relationnelle, par exemple marié ou célibataire, divorcé. Ton arrière-plan, ma famille n'était pas une bonne famille, mais les autres, ils avaient une bonne famille. Tes voisins, peut-être, ils sont un peu gênants. Et plein de choses. On peut avoir ces pensées de mécontentement. Alors, que faire quand le diable nous tente d'être mécontent? Quel est le secret que Paul nous partage pour mener une vie de contentement? Le secret se trouve maintenant dans ce verset ici. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous devons mettre notre confiance en Jésus. Ça ne veut pas dire que nous pouvons faire n'importe quoi. Par exemple, je ne peux pas sauter du balcon du 10e étage en pensant que je peux tout faire par celui qui me fortifie. Non, ça, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici. Ce que Paul nous enseigne, c'est que par la grâce et la puissance de Jésus, nous pouvons faire face à n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise. C'est lui qui est la source de notre contentement et pas les circonstances. Si nous avons, comme nous avons Jésus comme notre trésor, nous avons tout en lui. On ne peut pas être volé de Jésus, il est là. Et s'il est notre trésor, on a tout en lui. Le mot qu'il utilise, Paul, ici dans notre texte, le mot contentement, dans, ici dans cette version, satisfaction, être satisfait de ma situation. Le mot ici dans le texte était un mot que Paul a emprunté du vocabulaire des philosophes stoïciens au temps des Grecs. Et le terme signifie littéralement « qui se suffit à soi-même ». Le stoïcien considérait comme une grande vertu d'être détaché des événements extérieurs et d'avoir en soi les forces nécessaires pour faire face à toutes les situations. Ça, c'était leur philosophie. Pour eux, l'homme fort était l'homme qui pouvait vivre ainsi. C'était l'homme autonome qui peut vivre en autosuffisance. Mais Paul emploie le mot d'une façon différente. Paul est d'accord que nous pouvons et nous devons vivre indépendant de nos circonstances. Mais les ressources suffisantes pour le faire ne proviennent pas de nous, comme les stoïciens disent, mais plutôt de Jésus-Christ en nous. Les forces et la grâce. Selon Paul, la personne qui vit dans le contentement, c'est la personne qui met toute sa confiance en Jésus. Nous devons regarder à Jésus pour la grâce et la puissance nécessaires. Et je veux, j'ai pensé de vous donner deux exemples. Il y avait, je me souviens, une sœur en Christ, une jeune femme de peut-être 25 ans, 26 ans. Elle s'appelle Suzy. Et c'est, le Seigneur a dit que je veux que tu sois un missionnaire, que tu vas dans le champ missionnaire outre-mer pour travailler pour moi. Elle était convaincue. Mais son papa n'était pas trop content parce qu'il a dit que, mais Suzy, tu vas trouver un mari où? Mais sa réponse m'a marqué. Elle a dit, papa, ne t'inquiète pas. Dieu connaît mes coordonnées de GPS et s'il veut me trouver pour moi, un mari, il va m'envoyer ce mari. Donc, vous voyez, elle a mis sa confiance dans la bonté, dans la puissance de Dieu. Un autre exemple est mon père. En tant que nouveau converti, peut-être c'était 6 mois, 1 an, je ne sais pas, après qu'il s'est converti à Jésus-Christ, Ça fait, bon, je sais pas, 45 ans maintenant. En tant qu'il a reçu Jésus, après, il faisait face à la leucémie avec un calme. Ils ont découvert qu'il avait la leucémie. Et ça m'a, ce qui m'a touché est le calme qu'il avait face à cette maladie. Il était mort dans un an, mais c'est cette calme face à cette maladie qui m'a conduit à Jésus. Bien sûr, il voulait être guéri. Il était triste de quitter sa famille, mais il a accepté la situation avec la confiance que son futur et le futur de ses enfants, de sa famille, étaient dans les mains de Dieu. Et en regardant cette calme, face à la mort, j'étais touché et j'ai dit, je veux croire en ce Dieu-là, moi. Donc, le contentement est un état d'esprit qui ne dépend pas des circonstances de ma vie, mais plutôt de Jésus-Christ. En lui, nous avons toutes les ressources, la grâce et la force nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. Mais il y a une deuxième chose, leçon que nous voyons dans ce passage. Le contentement est un état d'esprit que nous devons apprendre. Regardons de nouveau notre texte, surtout au verset 12 et 13. L'apôtre Paul dit, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Les verbes que l'apôtre Paul emploie nous montrent que mener une vie de contentement n'est pas quelque chose qui vient naturellement à nous. Ça s'apprend. Il y a beaucoup à dire sur ces verbes. Ce matin, mais le temps ne permet pas. Quand j'étais en train d'écrire ce message, j'ai voulu dire, ah mais il faut savoir le temps et c'est le parfait et toutes les choses de grammaire. Il y a plein de choses, mais il suffit de dire que Paul nous témoigne ici que vivre d'une telle manière est quelque chose qui a pris du temps à apprendre pour lui. Et c'est pareil pour nous. Nous ne pouvons pas lire un verset comme ça dans la Bible ou écouter un sermon et penser que nous serons transformés magiquement dans un instant. Hier le pasteur il a prêché sur le contentement et lundi matin, ah je suis content, ça n'arrive pas comme ça. En fait, nous devons prendre du temps pour apprendre. Permettez-moi de donner un exemple de ma vie. En fait, j'aime bien la musique irlandaise. Et donc, je suis en train d'apprendre à jouer le Irish Whistle. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais Irish Whistle. Donc, regarde, j'ai cette vidéo. C'est un chant que je veux apprendre. Lundi soir, je vais avec d'autres musiciens qui jouent ce genre de musique pour apprendre avec eux et tout. Donc ça c'est le chant le morceau qu'il apprend maintenant. C'est bien, hein? je rêve. Bon, en fait, que pensez-vous? Ils m'ont dit que ça, c'est le chant que nous allons apprendre. Donc, est-ce que vous pensez que je peux regarder cette vidéo et dire, ah, voilà, je vais jouer comme ça? Ça n'arrive pas. Oui, donc je dois m'entraîner, je dois écouter. Ce que je fais, je prends ce morceau de musique, je mets en slow. Vous voyez? Je ne le fais pas parce que je ne veux pas être embarrassé devant vous. Mais... Ok, bon, ça c'est... Ce que je voulais dire est que apprendre à jouer n'importe quoi, apprendre les choses dans la vie, prendre de l'effort, de persévérance. Les lundis soirs, quand je vais pour jouer avec les autres, j'avoue que c'est un peu embarrassant parce qu'ils peuvent jouer bien et donc je suis là. Je suis plus âgé que les autres, mais ils m'acceptent et j'apprends. Et à la maison, je dois m'entraîner et tout. Mais c'est comme ça aussi dans la vie spirituelle, pour plein de choses. Nous lisons les choses dans la parole de Dieu en nous pensant que, ah, voilà, je dois avoir la joie en Jésus. Mais il y a aussi les choses, les conditions qu'il nous donne, les choses que l'apôtre Paul nous dit ici pour grandir. Il y a les moments que ça ne marche pas, donc je reprends. Je regarde encore les choses de base et pour apprendre comment vivre, comment mener une vie de contentement. Donc, j'ai juste quelques suggestions pratiques pour vous. D'abord, identifie et reconnais les émotions négatives qui volent ton contentement. Jalousie, ah, il a une voiture meilleure que la mienne. Ou apitoiement sur soi-même. Inquiétude. Colère, quand tu vois ces émotions, critique, plainte, murmure, frustration. J'avoue, cette semaine, nous venons de déménager dans un nouveau appartement. Et il y avait un jour que je me suis plaint. On dit comme ça, je me suis plaint sur plein de choses. Chaque, oh, la cuisine, c'est terrible. Et finalement, j'ai pris un peu de temps avec le Seigneur, il m'a parlé de tout, ça doit arrêter. Tu as un logement pour vivre, un lit pour dormir, la nourriture pour manger. Donc, je ne veux pas. Donc, je dis, Seigneur, je vais faire mon tout pour ne pas se plaindre aujourd'hui. C'était OK, mais j'ai beaucoup à apprendre encore. Je suis en train de... Mais identifiez, quand vous êtes à cette attitude de critique ou inquiétude, colère, et plainte, toutes ces choses, reconnaître que c'est là et parle avec ton Seigneur. Rappelle-toi de la promesse donnée que nous venons de voir. Je peux tout en celui qui me fortifie. Jésus est notre source de grâce et de force nécessaire pour faire face à toute situation. Il est ton tout en tous. Demeurez dans cette vérité. Que cette vérité soit ancrée en vous. Confie la situation de Dieu, de troisièmement, selon la promesse donnée en Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. C'est le passage que notre frère Zach a prêché la semaine dernière, mais ça c'est lié à tout ce que Paul dit ici. Donc je vais le lire encore. C'est une promesse qui est devenue très importante pour moi. L'apôtre Paul dit au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, combien de choses? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la promesse qui suit au verset 7, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est le secret. Il a compris l'apôtre Paul. Il est dans une circonstance. Il a regardé à Jésus. Il a prié. Il a confié la situation à Dieu. Selon cette promesse. Et la quatrième chose, efforce-toi de penser correctement, comme l'apôtre Paul dit encore dans ces mêmes passages au verset 8. Il dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur ce qui est vrai. Le diable, il met les mensonges dans nos vies. Nous menons nos vies selon les mensonges du diable. Ou de ce monde, ce que nous voyons sur le téléviseur. Nous devons mettre, mettre les pensées qui sont vraies dans notre tête. Il a dit, verset 8, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. » Est-ce que nous laissons passer dans nos têtes les choses qui ne sont pas honorables? Ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Nos pensées doivent rester là. Donc, mais pour que ça soit fait, ça va exiger que tu mémorises et médites les promesses de la Bible. Je vous propose alors quelques versets de mémoriser. Et j'ai, en fait, ces quatre suggestions ici. Christine, tu peux m'aider pour distribuer. Et ces suggestions pour mettre dans ta, votre Bible pour... Désolé. Pour... Bon, pour terminer, ce que je voudrais dire, nous avons vu ce matin qu'en Christ, nous pouvons vivre une vie où nous sommes satisfaits de ce que nous avons et ce que nous sommes. Une vie où nous ne sommes pas pressés, stressés, frustrés ou courbés sous les soucis de cette vie. Une vie marquée par une tranquillité d'esprit, une force intérieure pour vivre. Une telle vie est possible, je vous assure, c'est possible en Jésus-Christ. Mais c'est une vie que nous devons apprendre. J'ai beaucoup à apprendre encore pour vivre dedans. Nous sommes tous différents. Nous avons des personnalités différentes dans cette assemblée. Pour certains, apprendre à vivre d'une telle manière va être plus difficile. Il y a certaines personnalités qui sont toujours calmes et d'autres qui sont toujours agitées. Donc, ça va être plus difficile pour certains que les autres. Mais en Christ, je peux tout en celui qui me fortifie. Ça peut arriver. Si nous mettons l'effort, la persévérance pour mettre ces choses en pratique. Pour terminer, je veux partager une prière qui reflète pour moi la vie de quelqu'un qui a appris comment vivre une vie de contentement qui est exprimée ici dans ce passage. En fait, c'est une prière que mon père m'a partagée avant sa mort. J'avais 17 ans. Mon père, pour moi, il est le centre de mon monde. Et c'était un temps qui était très difficile pour moi. Mais il m'a partagé ce prière. En fait, pas verbalement, il a écrit sur un morceau de papier. Il l'a laissé dans son tiroir, adressé à moi et ma sœur. Et après sa mort, je l'ai trouvé. Mais je crois que si nous pouvons, et je vous encourage pendant cette semaine, une fois par journée, lire cette prière. Laissez la vérité de cette prière vraiment agir dans ton cœur. C'était écrit par Renan Niebuhr. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse de discerner la différence. Vivre un jour à la fois, bénéficiant d'un moment à la fois, acceptant les difficultés comme le chemin qui conduit à la paix. Prenons comme Jésus ce monde pécheur comme il est, non pas comme je le voudrais, confiant qu'il fera de toutes choses ce qu'il est bien et doit si je m'abandonne à sa volonté, que je peux être raisonnablement bon, heureux dans cette vie et suprêmement heureux avec lui dans la prochaine pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur.